Oui, bonjour et bienvenue au Salon intergénérationnel de la formation qui se tient cette semaine à Moutier avec trois invités pour une table ronde consacrée à la place de l'intelligence artificielle dans les écoles de la région et au sein des différents cursus de formation. On évoquera aussi la question des téléphones portables alors que le canton du Jura les a bannis à l'école obligatoire. Pour échanger autour de ces thématiques, nous recevons Caroline Balmer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-directrice de la division commerciale du CEGEF. À vos côtés, Thierry Guiguer. Bonjour.
Bonjour.
Directeur du COVICOU, soit du syndicat qui regroupe les écoles primaires et secondaires de Cormoret, Villeray et Courtelary. Et enfin, Stéphane Corr. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions numériques et expert en cybersécurité. Alors, pour ouvrir cette table ronde, je vous propose de revenir sur l'utilisation des téléphones portables dans les écoles. On l'a dit, tout appareil personnel de communication électronique, donc y compris les montres connectées par exemple, ont été bannis de l'école obligatoire jurassienne. Stéphane Corr, en tant qu'expert de la question, est-ce que vous trouvez la mesure pertinente ?
Alors, pour ma part, je trouve qu'une interdiction totale n'est jamais pertinente pour apprendre quelque chose. Aujourd'hui, on a des périphériques qui sont complexes et il faut apprendre à les utiliser et apprendre à ne pas les utiliser aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut les utiliser pour des fins pédagogiques, il y a des moments où on peut les utiliser pour le divertissement, il y a des moments où on peut les utiliser pour s'informer, s'éduquer et autres. Puis il y a simplement des moments où ils n'ont pas leur place parce qu'ils vont nous perturber notre concentration. Tous ces équilibrages, en fait, ils doivent être appris. Ils peuvent pas, c'est pas inné, c'est quelque chose qu'on doit acquérir. Et l'interdit ne va pas permettre d'acquérir ça. Après, partir du principe que ça va permettre aux élèves de mieux dialoguer entre eux ou de les forcer quelque part à parler avec des gens avec lesquels ils n'ont peut-être pas envie de parler, ça c'est un autre débat qui est plutôt un débat d'adultes et peut-être que des fois on oublie la manière dont les liens sociaux se tissent à travers ces périphériques et pas de ces périphériques, c'est-à-dire les gens échangent à travers ces périphériques, tissent des liens sociaux, ont une vie sociale qui s'exprime aussi à travers ces outils, que ce soit à récré ou en dehors de l'école.
Caroline Balmer, c'est différent hein, dans le poste obligatoire où vous exercez. Comment les téléphones portables sont encadrés ?
Alors, chaque élève peut venir avec son téléphone portable en classe. Bien évidemment, ça reste l'enseignant qui dirige un petit peu si oui ou non on peut avoir l'utilité de ce téléphone portable. Nous, on a pour principe, finalement, au départ, de laisser cette liberté à chacun des enseignants, avec bien évidemment des directives internes. Ça veut dire que si on voit qu'il y a un abus d'un côté, du côté des apprentis, étudiants, et ben finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On peut supprimer ces téléphones portables, les mettre dans une boîte, et puis finalement, ils reprennent ça en fin de journée. Donc, on a cette faculté-là. Mais je rejoins les propos de Monsieur Corr. Finalement, le mieux, c'est quand même de laisser cette liberté d'apprivoiser ce matériel, parce que c'est vraiment ça, l'effort qu'on doit faire. Ça veut dire que ça fait partie de notre vie aujourd'hui, ces téléphones. On ne peut pas les substituer à autre chose. Je veux dire, ils les ont dans leur poche, ils les utilisent constamment. Et puis à nous, finalement, de mettre les barrières qu'il faut pour pouvoir les utiliser correctement.
Thierry Guiguer, dans le canton de Berne, il n'y a pas une telle interdiction hein, au niveau des écoles primaires ou secondaires. Quelles sont les règles ?
Alors c'est vrai que le canton de Berne n'édicte pas lui-même les interdictions ou des réglementations. C'est une liberté communale. Ça veut dire que chaque école doit créer son propre règlement, son propre fonctionnement. Ça veut dire que chacun de son côté va réfléchir aux meilleures pratiques, mais dans les faits, on est quand même assez sur la même ligne au niveau des écoles secondaires et primaires du canton de Berne. On interdit généralement l'usage des téléphones portables dans l'enceinte de l'école, parce qu'effectivement, ce n'est pas à ce moment-là que ça a sa place et que ça a vraiment du sens. Et l'usage reste limité à une utilisation pédagogique. Mais étant donné qu'il n'y a pas de règlement clair, ça demande quand même un contrôle et un pilotage un peu particulier dans chaque établissement.
Est-ce que vous seriez favorable à une mesure comme dans le canton du Jura, avec une interdiction, y compris finalement dans les activités extrascolaires, les camps de ski par exemple ?
Encore une fois, moi je pense pas que l'interdiction pure et simple résolve quelconque problème. Il y a des camps de ski qui se font sans portable et ça se passe extrêmement bien parce que c'est un choix de dire à ce moment-là on privilégie les interactions qui sont sociales. Il y a des camps de ski qui se font avec un contrôle, c'est une heure possible, ce genre de choses-là. Donc il y a plein de fonctionnements différents. Mais une interdiction pure et simple, à mon avis, ne permet pas justement de jongler avec les moments où on essaye d'apprendre aux jeunes à les utiliser, et puis ces moments où on leur dit non, c'est pas le moment. Donc moi, là, je rejoins effectivement ce qui a déjà été dit précédemment.
Stéphane Korn, vous avez dit justement, vous estimez que les NATEL ont une utilité à l'école, vraiment, ils peuvent être utiles.
Oui, du moment, c'est toujours ça la réflexion. Du moment qu'il y a une valeur pédagogique, on peut l'utiliser. Du moment qu'ils interfèrent avec une communication pédagogique, il faut qu'ils soient éteints ou qu'il faut qu'ils soient sur le côté. Donc après, il y a aussi l'outil. Finalement, on aimerait que les jeunes n'utilisent pas leur téléphone à l'école, mais qu'ils l'utilisent dans le monde professionnel. Donc comment comprendre cette ambiguïté et cette transversalité en deux environnements, alors que les deux sont destinés aussi à l'apprentissage, et je crois qu'on est au bon endroit pour en parler, et que le téléphone est aussi quelque chose de complexe. Je me souviens dans une école, je ne sais pas si c'était une école biennoise, où il y avait la journée du smartphone, et cette journée était dédiée à apprendre comment fonctionnait un smartphone, comment étaient traitées les données, les permissions des applications, la sécurité. On voit qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont très fragiles face à la cybercriminalité, face aux fraudes, etc. Donc il y a aussi cet apprentissage-là. Et puis justement de dire, par exemple, on parlait de camp de ski ou une classe au vert, par exemple, disons ben, la classe au vert, le matin, ok, ils ont 30 minutes pour échanger socialement avec leur téléphone. Après, il y a peut-être une activité pédagogique pleine nature, etc., où il n'y a pas de téléphone. Puis peut-être après-midi, il y a une activité pédagogique pleine nature, on utilise des applications qui vont permettre de reconnaître les essences de plantes, de faire tout un autre chose, de dire, voilà, pédagogiquement, le téléphone peut nous servir à acquérir ces connaissances-là qu'on n'aurait peut-être pas forcément pu avoir autrement. Donc montrer qu'il y a des applications qui sont autres que le divertissement, tout comme le divertissement, et des fois, a tout à fait sa place, comme l'oisiveté a tout à fait sa place, comme l'ennui a tout à fait sa place, et c'est cette granularité qui est complexe, même pour les adultes, hein, je le rappelle, à acquérir, et c'est ce qu'on doit leur transmettre, surtout aujourd'hui, où les téléphones vont avoir de plus en plus, intégrer de plus en plus l'intelligence artificielle.
Caroline Balmer, ils ont un rôle particulier, les téléphones, au sein de la division commerciale. Ils sont parfois utilisés de manière pédagogique, comme disait Stéphane Korn.
Oui, tout à fait. Je prends un exemple très concret. Hein. Finalement, nous, à la division commerciale, on travaille avec une application qui s'appelle Webentis, qui permet de gérer la planification des cours. Donc, ils ont leurs cours en temps réel sur leur téléphone portable, ce qui permet, par exemple, que quand il y a un changement de salle, un changement d'enseignement, un enseignant qui ne serait pas là, etc., ils voient ça en temps réel. Et puis de plus, c'est ce qui leur permet de signaler personnellement s'ils seront présents ou absents au cours, ce qui a aussi une importance par rapport à l'enseignant. Ça, c'est un exemple. On en a d'autres, hein, d'exemples. On est connecté Teams, qui est une partie Office 365. Donc forcément, on demande aussi que ces applications soient connectées sur leur téléphone pour avoir en temps réel des discussions avec eux. Et puis, c'est des exemples parmi tant d'autres. Hein, Kahoot, quand on doit faire des petits questionnaires, etc. Donc oui, ça fait partie vraiment des outils qu'on utilise au sein de notre division.
Alors l'utilisation des NATEL dans les salles de classe va aussi de pair avec celle de l'IA, l'intelligence artificielle, Stéphane Korn le disait, qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Je vous propose un premier tour de table, peut-être pour savoir finalement si, selon vous, l'IA est une opportunité ou une menace pour le domaine de la formation. On commence peut-être avec vous, Thierry Guiguer.
Ben les deux, c'est ça. Non, mais en même temps, c'est difficile de dire. On peut jamais dire c'est complètement une opportunité ou complètement une menace. Ça dépend encore une fois de l'utilisation qu'on en fait. Si c'est une utilisation débridée, non encadrée, et puis où on se pose pas la question des réponses qu'on obtient, de la manière dont on pose des questions ou dont on pose des prompts dans une intelligence artificielle, on n'obtient rien de bon. Donc en fait, ça n'améliore pas les apprentissages. À l'inverse, si on réfléchit à une utilisation qui est vraiment posée, encadrée, et puis qui amène une plus-value pédagogique, ben voilà, c'est une opportunité.
Stéphane Korn.
Alors je dirais qu'on a la responsabilité, nous adultes, les écoles, les enseignants, d'essayer de faire que ça soit, essayer le plus de chances possible d'être une opportunité pour les jeunes. Aujourd'hui, le développement de l'IA, il est exponentiel. Il n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'un nouveau développement amène à une amélioration globale du système qui s'auto-améliore aussi. Et donc il y a une rapidité d'amélioration qui est quand même assez fulgurante. Hein. Si on voit que On peut dire qu'il y a 2 ans en arrière, le bébé a commencé à parler et aujourd'hui, il a quand même passablement grandi. Hein. Et donc, il y a un potentiel pédagogique qui est énorme. L'art de la question, c'est-à-dire comment poser une question à une IA, comment ne pas biaiser sa question pour pas avoir une réponse biaisée, sur quel type d'information elle va se baser pour répondre, quels sont les biais qui sont présents dans ces informations, d'où ils viennent, ils viennent des humains, parce qu'on va utiliser les informations humaines pour entraîner les IA. Et puis, derrière, il y a toute la réflexivité, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut travailler avec des élèves. Donc, des fois, il faut changer simplement les systèmes d'évaluation. Oui, les élèves peuvent utiliser l'IA, comme ils ont à un moment utilisé Wikipédia, peut-être pour certaines choses. Ils peuvent utiliser l'IA pour faire leur analyse de texte. Mais ce qu'il faut demander à l'élève, c'est comment est-ce qu'il est arrivé à ce résultat-là? Est-ce qu'il a compris ce que l'IA lui a fourni? Est-ce qu'il peut expliquer les choses? Est-ce qu'il peut expliquer les prompts qu'il a utilisés, c'est-à-dire les commandes qu'il a utilisées pour, par exemple, faire son devoir? Est-ce qu'on peut réfléchir sur ces commandes-là? Donc ça veut me dire aussi que l'enseignant doit se former au même titre que l'élève, mais que l'école ne doit surtout pas freiner dans l'acquisition de ce type de connaissances, parce que dans le monde du travail, aujourd'hui, ce qui est fragilisé, c'est les postes juniors.
Caroline Balmer, menace ou opportunité, l'intelligence artificielle ?
Toutes les deux également, je pense. Ce qu'on peut affirmer, et puis ça c'est certain, c'est que ça bouscule. Ça bouscule parce que tout va très très vite. J'étais pas plus tard que ce matin en séance avec les formateurs en entreprise de nos stagiaires. Et puis finalement, on formait ce matin sur l'open book, y compris l'intelligence artificielle au niveau des examens qui se dérouleront au mois de juin. Donc finalement, en l'espace de 3 ans à peu près, eh ben, on voit que... que ça fait son bout de chemin et puis qu'on ne peut plus passer sans ça et puis passer outre l'intelligence artificielle. Ça, c'est certain. Quoi.
Thierry Guiguer, est-ce que l'IA, elle est déjà beaucoup utilisée par vos élèves aujourd'hui au niveau secondaire à Courtelary?
Non, pas énormément. Il y a quelques petites tentatives d'utilisation comme ça à gauche, à droite. Mais par contre, elle est quand même pensée déjà dans le plan d'études, dans l'éducation numérique. Ça veut dire qu'on y réfléchit maintenant. Il y a les moyens d'enseignement qui sont aussi mis à jour ces temps pour l'inclure, pour justement permettre aux élèves d'acquérir certaines compétences en lien avec l'IA, comme ça a été dit. Et les écoles ouvrent petit à petit l'accès à l'intelligence artificielle dans les moyens d'accès informatique qu'on donne à nos élèves. Mais ça se fait, certaines écoles sont un peu plus en avance, ouvrent, regardent ce qu'il faut réglementer et puis cadrent après. Et d'autres préfèrent cadrer un peu avant d'ouvrir aux élèves.
Caroline Balmer, on imagine que l'IA elle est quand même plus présente à l'école de commerce.
Oui, elle est présente. Ça veut dire que c'est aussi des enjeux importants, notamment au niveau maintenant des évaluations, hein, qui posent un certain nombre de problèmes parce que finalement, on doit revoir ces évaluations, de quelle manière amener finalement de l'oral pour qu'on puisse valider si la compréhension de l'écrit a été là. Donc c'est tout un chamboulement qui est pas anodin, qui nécessite aussi une posture de l'enseignant très différente. La modification de son rôle d'enseignant est véritablement là. Et puis cette posture, cette manière d'apprivoiser cette IA, et ben c'est aussi transmettre tout ce que Monsieur Cor a expliqué tout à l'heure. Ça veut dire être un bon prompteur. Hein. Moi, j'ai lu quelques articles qui disaient finalement, on va peut-être voir à un moment donné des ingénieurs prompts, quoi. Ça risque d'arriver. Et puis, c'est des sujets qui font un peu peur parfois, mais on doit appréhender tout ça.
Stéphane Cor, peut-être expliquer, c'est vrai qu'on parle de prompt, de l'IA, de quelle manière ça fonctionne finalement, par exemple pour les écoles, où c'est qu'elle peut être utile, l'IA?
Alors, c'est comprendre comment on peut découper, en fait, une réflexion, comment est-ce qu'on peut la transmettre, comment est-ce qu'on peut la rendre compréhensible, comme on le ferait avec quelqu'un, finalement, mais on ne fait pas cet effort. Généralement, on se dit, la personne va nous comprendre. Mais on voit bien qu'entre humains, il y a beaucoup de problèmes de communication et beaucoup d'incompréhension par rapport, des fois, aux mots utilisés, au langage utilisé, aux présupposés, ou est-ce que semble véhiculer le message. Et alors, avec l'IA, on doit essayer d'être beaucoup plus clair, de segmenter sa demande et autres. Mais par contre, on voit aussi qu'au niveau du prompt engineering, donc tout ce qui dit l'art du prompt, de plus en plus, on peut aussi confier cette tâche à une IA. Moi, souvent, je demande à une IA de me faire le prompt plutôt que de m'embêter à le faire moi-même. Et puis après, c'est moi qui dois superviser. Cette notion de supervision qui fait appel en fait à nos compétences, nos connaissances, nos capacités cognitives, elle est extrêmement importante et c'est vraiment celle qu'on doit de plus en plus développer. Après, attention, parce qu'on peut sortir l'IA de l'école, on peut sortir le téléphone de l'école, on peut sortir les réseaux sociaux de l'école, mais ça ne les sortira pas des usages de société. Et ça, c'est un vrai problème. Ou, c'est-à-dire, en tout cas, c'est un problème qu'on doit prendre en compte. Maintenant, parmi les jeunes, il y a énormément de jeunes qui utilisent l'IA pour parler de leur problème de santé mentale. Alors, c'est bien qu'ils parlent de leur problème de santé mentale, même à une IA. Par contre, leur capacité de discernement à se dire, à ce moment-là, j'ai besoin d'un vrai thérapeute, ben, elle est quand même pas forcément présente. Donc, on doit les accompagner aussi sur ce domaine-là, c'est-à-dire dans leur usage généraux ou générique de ces outils.
Alors Caroline Balmer, il y a aussi la question de la triche finalement qui se pose avec l'IA. Est-ce que c'est un risque à ne pas négliger à votre niveau ?
Bien sûr, c'est un risque à ne pas négliger, mais actuellement, il est, on n'arrive pas à le piéger finalement. Ils utilisent l'intelligence artificielle et puis à nous de mettre en place des choses qui valident après ces dossiers écrits. Parce que c'est là que ça se passe. Hein. Le véritable enjeu, il est sur ces dossiers écrits. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on laisse finalement travailler ces dossiers comme on avait l'habitude au préalable. Ils doivent faire référence comme une source, finalement. J'ai utilisé l'intelligence artificielle pour soit corriger mon texte, soit pour me renseigner sur la procédure, etc. Et puis, finalement, nous, on met un accent très particulier sur l'oral. Donc, on a une pondération au niveau de l'oral maintenant qui est beaucoup plus importante que sur l'écrit.
Stéphane Corr, on voit, ça change vraiment ce que disait aussi Caroline Balmer, le rôle de l'enseignant hein, au moment de la correction finalement.
Oui, l'enseignant doit pouvoir se remettre en question, lui aussi, et comprendre que ces changements, ils sont extrêmement importants à adopter pour le bien des élèves. Parce que les élèves vont être confrontés à un marché du travail qui, lui, va être fortement impacté par l'utilisation de l'IA. Et là, je me permettrai alors un petit teasing pour la conférence de ce soir et une petite mise en garde aussi peut-être aux enseignants qui ont envie d'utiliser des outils de détection, d'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a un vrai paradoxe à derrière. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on s'estime peut-être pas capable d'identifier si un texte a été écrit par un humain ou par une intelligence artificielle. Et pour avoir une réponse à cette question, on va utiliser un outil d'intelligence artificielle qui doit nous définir l'humanité qu'il y a dans ce texte ou pas. Et on va pénaliser la personne qui aurait écrit ce texte avec une IA, éventuellement, parce que nous-mêmes, on n'a pas réussi à détecter que ça a été le cas. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais à la fin, aussi, ces outils, ils font des faux positifs. Par exemple, il y a un outil d'intelligence artificielle qui a identifié la déclaration d'indépendance des États-Unis comme étant à 98% écrite par une IA. C'est un peu problématique. Donc ça veut dire qu'on peut pénaliser des élèves, on peut pénaliser des demandeurs d'emploi parce qu'on estime que leur postulation a été faite au moyen d'une IA. Et puis aussi, on peut spolier quelqu'un de son capital intellectuel parce que simplement, la personne a écrit quelque chose, puis c'était bien écrit et on a considéré que c'était une IA. Non, aujourd'hui, il faut se dire, qu'est-ce qu'on arrive à produire ? Comment est-ce qu'on arrive à comprendre si la personne qui a utilisé l'outil a bien compris ce qu'elle a fait et elle a bien compris le rendu qui lui était donné par l'outil. Est-ce qu'elle a réussi à avoir cette conversation, ce partenariat intellectuel avec, avec l'outil qui lui produit des informations et des données ?
Thierry Guiguer, dans le cadre des devoirs, par exemple, pour vous, des devoirs à la maison, c'est compliqué de savoir si il y a l'IA qui a été utilisée ou pas ?
Au niveau de l'école secondaire, relativement rarement. On a quand même des élèves qui l'utilisent de manière assez naïve et puis qui finalement soit remettent exactement un copier-coller de ce qu'ils ont trouvé sur Internet, y compris cette réponse a été générée avec tel ou tel outil, ou alors on se rend compte que la réponse est à côté de l'énoncé de la question, voire clairement une hallucination d'IA. Donc on peut être assez loin. Et puis l'élève ne va pas pouvoir mobiliser non plus les connaissances, il a tout fait avec l'IA. Donc moi, au-delà de la question de la triche par rapport au devoir, c'est plutôt qu'est-ce qu'on demande comme devoir qui est important auprès des élèves. Parce que si on leur demande uniquement des choses où ils peuvent prendre en photo l'énoncé avec leur téléphone, puis avoir une réponse dans les deux secondes, puis nous le ramener, puis le prof est content parce qu'il y a eu une réponse, ça veut dire que le devoir ne sert à rien. Donc si le devoir doit aller un peu plus loin que ça, que juste pouvoir fournir des réponses, et puis voilà, il faut interroger les pratiques, vraiment.
Caroline Balmer, mais aujourd'hui, est-ce que on se dit le fait de rédiger un texte soi-même, ça devient presque pour vous, c'est quelque chose que vous pouvez plus vraiment demander ?
Non, pas du tout. Nous, en français, par exemple, je veux dire, la rédaction, elle fait vraiment dissertation, elle fait vraiment partie de ce qu'on doit encore développer chez nous. Donc, ça veut dire que c'est de la dissertation manuscrite. Pendant 3 heures, ils sont quand même voués à eux-mêmes sur une phrase de réflexion. Et puis, ils travaillent quand même ça, aussi bien dans la structure que dans l'étude de la problématique. Donc, si vous voulez, nous, il faut que ça reste, et puis ça doit rester sous cette forme-là. On ne peut pas demander à l'intelligence artificielle de tout faire la partie écrite, même si nous, on doit, notre rôle, je pense, d'école est d'ouvrir large la vision à tout ce qui existe. Et puis après, finalement, à l'individu de faire le tri de ce qui lui correspond, sa manière d'apprendre, sa manière de fonctionner. Est-ce que j'ai besoin de cette intelligence? Est-ce que j'en ai pas besoin? Est-ce que là, je peux m'en passer, etc. C'est vraiment ça que nous, on doit ouvrir comme vision et puis faire en sorte de former ces jeunes à cette problématique de société.
Stéphane Corr, est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi un risque de pousser à la paresse intellectuelle, finalement, avec l'IA?
Mais la paresse intellectuelle, c'est une décision personnelle quelque part. C'est-à-dire que non, l'IA ne rend pas bête, et les jeunes ne deviennent pas de plus en plus bêtes non plus d'ailleurs, hein, on peut en profiter, il y a des études qui le prouvent. Et ça dépend de l'utilisation faite. Moi, je ne sais pas, l'IA me permet de nourrir ma curiosité. Quand j'ai des questions, sur des fois, on a beaucoup d'idées reçues qu'on a acquis tout au long de notre existence ou de notre éducation, qu'on peut vérifier avec l'IA. Maintenant, ce n'est pas parce que l'IA nous répond quelque chose qu'on doit le prendre pour autant comme étant une vérité absolue, mais comme avec un humain aussi. Et généralement, on a tendance à prendre pour une vérité absolue ce qu'un humain nous dit. Mais on devrait faire un test d'hallucination au niveau humain et on verrait que peut-être l'humain est plus hallucinant que l'IA. Donc hallucinant, c'est le taux d'erreur qu'on peut faire par rapport à un certain nombre de réponses. Et donc, l'IA peut être vraiment, de nouveau, un catalyseur de pensée, un outil qui permet d'exprimer sa créativité, qui permet de la mettre en forme, d'exprimer des idées. Demander à une IA d'accomplir quelque chose d'artistique, c'est pas si simple. Ça demande une vraie réflexion, ça demande un accompagnement. Et par contre, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est peut-être d'arrêter d'opposer intelligence et intelligence artificielle. En disant, ouais, mais l'IA n'est pas intelligente. L'IA arrive en tout cas à accomplir la majorité des tâches que l'humain arrive à accomplir. L'IA arrive à accomplir avec la même qualité la majorité de ce que des artistes peuvent faire au niveau général de la société. Là, je vais me faire allumer, mais bon. Ou par exemple dans le domaine de la musique. La musique, les artistes sont souvent inspirés d'autres artistes. L'IA a appris en s'inspirant d'autres artistes. Et aujourd'hui, il y a des productions musicales qui arrivent dans des charts, dans des classements, où les gens soutiennent ces productions et ne les détectent pas forcément comme ayant été créés par l'IA. Donc c'est-à-dire qu'ils ont la même qualité que d'autres morceaux de musique aujourd'hui. Donc il faut faire avec. Ça n'empêche pas qu'on peut être un artiste et utiliser l'IA sans pour autant être, on va dire, amoindri dans sa capacité à exprimer son art par l'IA.
Thierry Guiguer, encore peut-être un mot au niveau des enseignants, finalement. Est-ce que les enseignants, chez vous, ils ont le droit d'utiliser l'IA pour préparer leurs cours, finalement?
Oui, absolument, mais toujours avec les mêmes précautions dont on a déjà parlé. C'est un outil. Si on peut mettre de l'énergie dans l'accompagnement de l'élève plutôt que dans la rédaction pure et simple et puis taper à l'ordinateur toute l'entièreté d'un cours alors que ça peut être généré automatiquement, bien sûr que ça peut être utile. Et on l'encourage, on a fait des formations, on a beaucoup de domaines sur lesquels on peut s'aider de l'IA, mais comme dans tous les corps de métier, l'enseignement n'est pas une exception à ce niveau-là.
De votre côté, Caroline Balmer?
Oui, c'est exactement la même chose. Nous, on a décidé de former. On a plusieurs enseignantes chez nous qui possèdent un casque numérique, donc ont été aussi formées en conséquence par rapport à ces nouveaux outils, nouvelles applications. Et puis, bien évidemment, ils sont plusieurs à utiliser cette IA pour la fabrication d'épreuves, de supports quelconques, etc. Ça fait partie maintenant aussi de leur travail d'utiliser ces applications, oui, bien sûr.
Stéphane Corr, rapidement, on arrive gentiment au terme de la table ronde. C'est important de poser un cadre aussi pour les enseignants, savoir jusqu'où on peut aller.
Oui, il y a un cadre légal qui existe hein, au niveau de la protection des données. Il y a un cadre au niveau de la sécurité. Il y a des lois européennes qui existent. La Suisse a choisi de ne pas forcément les suivre. Malheureusement, on est toujours un peu en retard par rapport à ces contextes. mais légaux. Donc, mais oui, il faut en tout cas avoir un contexte éthique, moral, comprendre les outils qu'on utilise, qu'est-ce qu'ils impliquent, comprendre ce qu'ils consomment en termes d'électricité, comment les positionner dans notre société, comprendre aussi qu'on utilise des outils qui ne nous appartiennent pas. On est dépendant d'une connexion Internet, d'une alimentation électrique, et on est dépendant de services qui sont basés à l'étranger. Donc il y a une notion de souveraineté qui est extrêmement importante aussi à intégrer. Il y a aussi ce risque de paupérisation des emplois plutôt que de création d'emplois par l'IA. Et tous ces éléments-là, on doit quand même les intégrer pour permettre aux jeunes générations d'être le mieux armés possible par rapport à la société qu'ils vont devoir affronter. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, je pense que c'est notre responsabilité.
Stéphane Corr, Caroline Balmer et Thierry Guiguer, merci à vous trois d'avoir participé à cette table ronde et bonne journée.
Merci.
Bonjour. Je rappelle que nous étions en direct du Salon interjurassien de la formation qui se tient jusqu'à dimanche ici au Forum de l'Arc à Moutier. Bon après-midi à tous.